Session de philosophie sur la contemplation par le père Marie-Dominique Philippe et le père Gouthière à Rimont le 21 mai 1998, deuxième conférence.
Alors puisque le père Philippe a dû partir pour Genève, sous d'autres cieux, pour le festival Agapé, m'a demandé de pouvoir vous aider, réfléchir avec vous jusqu'à samedi matin, et puis il continuera la session samedi et dimanche, hein, sur cette réflexion philosophique sur la contemplation, qui est difficile, hein, je n'aborde pas ce sujet sans crainte et tremblement. C'est un sujet extrêmement difficile pour le philosophe. Hein. Alors, peut-être, justement, pour que la coopération avec lui soit plus fructueuse, hein, je vais surtout essayer avec vous de poser quelques grandes questions, de vous disposer à ce qu'il vous donnera comme étant sa propre démarche. Hein. Bien sûr, je ferai des incursions, j'essaierai de vous aider à recevoir ce qu'il a à vous donner, mais je crois qu'il y a des quantités de présupposés que peut-être nous pouvons essayer de faire ensemble et qui nous aident, hein, à bien entrer dans cette réflexion philosophique. Alors, d'abord, je reviens sur quelques mots d'introduction et puis j'essaierai de regarder avec vous quelques grands textes de l'histoire de la philosophie qui disposent, hein, à cette réflexion. Alors, je m'en expliquerai tout à l'heure sur le pourquoi de cette approche. Donc, vous voyez, quand on a commencé à voir ce matin, hein, cet aspect-là, quand on aborde le sujet de la contemplation philosophique, hein, tout de suite, je crois que c'est à mettre en parallèle, en lien avec un autre mot qu'on trouve en philosophie, mais la contemplation, sur lequel je vais revenir dans un instant par rapport au grec, c'est à rapprocher de la sagesse. Et la philosophie est une sagesse dans la mesure où elle s'ouvre à cette recherche ultime de la vérité qui va s'expliciter à travers ce qu'on appelle la connaissance contemplative. Alors, on reviendra sur ce problème qui n'est pas si commode, hein. Et quand on parle de contemplation, est-ce que la contemplation est une connaissance? Est-ce qu'elle est un amour? C'est pas si commode. Et déjà, du point de vue philosophique, il y a des quantités de positions différentes là-dessus. Et c'est, je crois, une des grandes questions qu'il faut tout de suite soulever. Hein. Quelle est la coopération? Quels sont les rapports de l'intelligence et de l'amour, de la volonté, dans la connaissance contemplative, dans la sagesse? Alors, je vous lirai tout à l'heure quelques textes. Déjà, chez Platon, le problème est posé de cette façon. Alors, nous y reviendrons. Vous voyez, quand je dis, hein, sagesse, la philosophie, amour de la sagesse, la philosophie devient sagesse quand elle explicite cette dimension ultime qui regarde la finalité de l'homme, qu'est la contemplation. Oui, la philosophie est sagesse pour deux raisons. Premièrement, premier aspect très important à saisir, qu'est-ce qui est explicite pour le philosophe? C'est qu'il cherche la vérité. Alors, j'y reviendrai aussi, c'est une distinction très importante qui est caractéristique de la philosophie grecque. La distinction entre opinion et vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et on est philosophe, on ne devient philosophe qu'en cherchant, qu'en ayant comme intention la recherche de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et puis deuxième aspect qui est capital aussi, et je crois que c'est un deuxième aspect éclairant sur cette recherche de ce que c'est que la contemplation, la vérité philosophique qui regarde l'homme est indissociable, le père vous l'a souligné ce matin, du problème de la finalité. Il n'y a de sagesse philosophique, il n'y a de sagesse que quand il y a connaissance de la vérité, que quand il y a découverte de la finalité. Alors je m'explique sur ces deux termes, parce que vous voyez, c'est des termes, hein, philosophiques qui ont peut-être pour certains des sens qu'il convient de préciser. Et parce que le mot vérité, déjà dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas si commode. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle vérité? Vous voyez, c'est très facile pour beaucoup aujourd'hui de dire chacun a sa vérité, chacun a sa vision des choses, chacun a sa théorie. Vous voyez. Qu'est-ce que c'est que vérité? Vous voyez, quand je parle de sagesse, je crois qu'il n'y a de sagesse que quand on parle de vérité. Comment la vérité se distingue-t-elle de l'opinion? Oui. Au fond, chercher la sagesse, c'est chercher la vérité, et ça exige, comme discipline personnelle, hein, qu'au fond, on remette constamment en cause ses opinions. Si vous avez noté ce matin, il y a une remarque du père Philippe que j'ai trouvée très frappante, et vous voyez, il vous a dit ça très vite, hein, et ce n'est pas toujours facile de le repérer. Il a dit cette chose très frappante, il a dit « On est serviteur de l'homme et on apprend à l'homme à découvrir sa dignité que quand on retourne constamment à la source. » Il vous a dit ça très vite. La source de la vérité, c'est la réalité. Est-ce que ce que je pense, hein, la vérité appartient à mon intelligence, je suis vrai si ce que je pense correspond à ce qu'est la réalité. Et donc, parler de vérité et la distinguer de l'opinion, hein, je fais bref au début, hein, c'est un peu à grands traits pour commencer, puis on va préciser après. Parler de vérité et la distinguer de l'opinion, c'est au fond comprendre, quand on parle de vérité, qu'il y a quelque chose qui mesure, hein, quelque chose, une réalité, mesure mon intelligence, ma connaissance. Tandis que l'opinion, si mon opinion devient l'absolu, c'est que c'est ma vision des choses qui devient mesure de la réalité. C'est bien cette phrase, hein, de Protagoras que Socrate a beaucoup critiquée, « L'homme est mesure de toute chose ». Et Socrate disait que c'était le propre des sophistes, au fond, d'être dans une subjectivité et de chercher à convaincre par un art rhétorique pour que la subjectivité qui était la leur l'emporte. L'art de la rhétorique, c'est un art de victoire par la parole. J'arrive à vous convaincre de mon opinion. Et je peux user beaucoup de rhétorique pour cela. Et la rhétorique peut être quelque chose de terrible parce qu'elle peut complètement éloigner de la recherche de la vérité. On se contente de discours, d'une opinion, d'une apparence. La rhétorique et l'opinion peuvent être extrêmement mondaines. L'opinion du plus grand nombre. La vérité, ça exige de reconnaître que quelque chose mesure notre intelligence. Alors, vous voyez, tout de suite, je vous pose une question. La sagesse va exiger une recherche de vérité parce qu'elle va être la recherche, et ce sera ça la connaissance contemplative, la recherche de la réalité première, mesure de toute vérité. Mais au fond, si Dieu existe, il est la vérité première. C'est pour ça que la question de Dieu en philosophie, hein, qu'on ne peut pas séparer de la question de la contemplation. Parler d'une contemplation philosophique, c'est poser le problème de la possibilité d'une connaissance de celui qu'on appelle Dieu dans une démarche philosophique. Et c'est une sagesse dans la mesure où le philosophe cherche qui est Dieu, cherche à découvrir une vérité au sujet de Dieu, au-delà des opinions que peuvent être dans ce domaine les traditions religieuses. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est absolument capital, c'est comme ça que la philosophie est née en Grèce. L'effort philosophique dans la sagesse, ça a été de dépasser les traditions religieuses qui ont un langage mythique, imaginatif, anthropomorphique, pour se demander quelle vérité peut-on découvrir au sujet de Dieu. Oui, ça pose une question critique. Hein. Est-ce que mon intelligence est capable d'énoncer une vérité sur un être dont je n'ai pas immédiatement l'expérience? Oui, une vérité toute simple, je veux dire, vous êtes assis. C'est une vérité d'expérience. Je le constate, je le vois. Puis je vois qu'il y a des gens qui arrivent là-bas, qui se mettent dans l'escalier parce qu'il n'y a plus de chaise. C'est une vérité. Objectif, je décris, c'est l'apparence. Puis-je connaître une vérité au sujet d'un être dont je n'ai pas immédiatement l'expérience? Vous voyez, ou est-ce que Dieu est un être purement inconnaissable? Alors est-ce que je peux être uni à lui en quelque manière? Mais c'est très intéressant, mais c'est un problème critique, hein, de ce qu'on appelle la critique en philosophie, c'est-à-dire de quoi notre intelligence est-elle capable? Oui, ça pose une question. Mon intelligence est-elle capable de contempler un être dont je n'ai pas l'expérience? Ou bien est-ce qu'elle ne peut se limiter qu'à la description des choses finies dont j'ai immédiatement l'expérience? Oui, c'est la grande question posée par les Grecs et c'est la question posée par tous les philosophes. C'est la question posée par Kant, c'est celle posée par Hegel, c'est la question critique de tous les modernes. C'est bien ce que dit Kant.
Je ne peux connaître que ce qui se manifeste immédiatement à moi dans les réalités sensibles. Et l'idéologie positiviste dirait quelque chose d'analogue. Hein. Je ne peux connaître que le mesurable. Je ne peux connaître que la science. Hein, le dernier livre qui fait fureur et qui est très caractéristique de la discussion de monde d'aujourd'hui, c'est un livre à lire. Hein, la discussion entre le professeur Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur. La nature et la règle. C'est la discussion entre la science et la philosophie. Mais quelle science? Une science complètement positiviste. La pensée, c'est le cerveau, c'est de la matière. Et de l'autre côté, la philosophie, Ricoeur dit textuellement qu'il est disciple de Heidegger et que sa méthode, c'est la phénoménologie, dont le vécu. Donc il y a le philosophe, c'est le vécu, il se renferme dans l'immanence de son opinion, et il est face à un savant qui dit « n'existe que ce que je mesure, que la matière ». C'est un dialogue de sourds, il n'y a aucun point de contact. Je crois que c'est un livre à lire, comme il vient de sortir il y a 2 mois. C'est très très intéressant comme typique du dialogue d'aujourd'hui. La science qui se réfugie dans le mesurable et qui prétend être la reine de toutes les connaissances, et la philosophie qui se renferme dans sa tour d'ivoire, le vécu inconnaissable par le scientifique. Et c'est très très important à saisir ça. Et c'est le même problème, vous voyez. Que puis-je connaître? Est-ce que je ne connais que le mesurable? Est-ce que je ne connais que l'expérience sensible? Ou bien puis-je m'élever à une connaissance d'un autre ordre? Et ultimement, puis-je connaître un être, s'il existe, dont je n'ai pas immédiatement l'expérience, dont l'existence n'est même pas évidente pour moi? On y reviendra, parce que ça c'est un point extrêmement important. L'existence de Dieu pour le philosophe, ça n'est pas quelque chose qui est évident. Ce n'est pas vu. Alors comment puis-je voir, contempler? On va voir tout à l'heure que le mot de contemplation est lié à la vision. C'est très important. Comment puis-je voir un être qui pourtant n'implique pas d'évidence immédiate pour moi dans son existence? Et on verra que c'est aussi un des points de contact très importants avec la foi chrétienne. On parlera de vision de Dieu. Pourquoi prend-on l'analogie de la vision? Il faut y réfléchir. J'y reviendrai. Vous voyez, premier aspect, la contemplation qui va nous faire découvrir que la philosophie est sagesse est liée à la découverte d'une vérité. Il n'y a de sagesse que dans la connaissance d'une vérité. Il ne peut pas y avoir de sagesse dans l'opinion. Parce qu'au nom de quoi une opinion que j'ai pourrait être la mesure de la vérité de l'intelligence de l'homme? C'est impossible. Mais chercher la vérité, et je crois que c'est un point très important à noter pour nous, c'est très pratique comme, j'allais dire, discipline de vie. Chercher la vérité, c'est une exigence constante de se remettre en cause. Ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, fait déjà tomber pas mal de murs. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour se remettre en cause tous les jours, pour remonter à la source constamment, pour mesurer ses opinions à l'aune de la vérité. Et c'est ce que les Grecs appelaient, ça je crois très important à souligner, la sagesse qui est liée à la vérité, ça exige pour les Grecs ce qu'ils appellent un thumos. C'est notamment dans le poème de Parménide. Thumos, c'est-à-dire, je traduirais ça, un désir ardent. C'est lié à l'irascible. C'est pour ça que les intellectuels qui entrent en philosophie deviennent des gens assez irascibles. Il ne faut pas trop les piquer, parce qu'eux-mêmes se mettent à piquer. Saint Thomas souligne que l'irascible, la colère, est la passion la plus proche de l'intelligence. N'en déduisez pas pour autant que les gens colériques sont tous très intelligents, non. Mais si on cherche la vérité, comme c'est très difficile, ça développe l'irascible. Parce qu'il y a un effort à faire constant. C'est beaucoup plus facile d'être dans le concupiscible, le carpe diem, et de suivre le mouvement. Je me laisse aller, ça n'exige pas beaucoup d'efforts, ça. Chercher la vérité, ça exige un effort constant. Et c'est pour ça que c'est lié à une certaine discipline, voyez, au grand sens du terme, pas une discipline au sens, il faut rentrer dans le rang, une discipline au sens d'une exigence permanente de vie pratique. Et ça, c'est très important, parce que vous voyez, la recherche de la vérité, ce n'est pas une chose intellectuelle, au mauvais sens du terme. Ce n'est pas quelque chose de cérébral. La recherche de la vérité, si elle peut devenir sagesse, c'est quelque chose qui est vital pour l'intelligence de l'homme, donc pour l'homme. Alors, on touche là, vous voyez, on arrive à un second point. Cette recherche de la vérité qui est sagesse, elle est aussi liée à la recherche de la finalité. Mais la finalité, c'est une vérité qui concerne la personne de l'homme. sa vie. Alors on touchera un point en étudiant un petit peu Aristote demain matin. Hein, les rapports très importants à saisir chez Aristote entre prudence et sagesse. Comment orienter notre vie sans savoir la vérité du cœur de l'homme qui peut permettre de découvrir une véritable finalité. Hein. Finalité, c'est-à-dire ce pourquoi je vis, ce en vue de quoi j'existe. Et ça, vous voyez, c'est une chose on ne peut plus actuelle. L'exigence philosophique d'aujourd'hui, elle est essentiellement liée à cette question de la finalité. Et c'est un point extrêmement capital. Hein. Si on fait de la philosophie, c'est pour réveiller dans notre intelligence cette question du sens de notre vie. Pourquoi vivons-nous? Sinon, vous voyez, ben, on vit au gré des opinions. On vit au gré des modes. Les modes vestimentaires n'en étant que les épiphénomènes. Il y a des modes beaucoup plus graves, les modes intellectuels, les modes artistiques. Oui, ça se lance, ça peut se lancer un artiste. L'art contemporain est tout à fait familier de ces choses-là. On peut vous lancer la réputation de quelqu'un, sur quoi repose-t-elle? C'est très intéressant. Et il n'y a de chose qui peut nourrir notre intelligence que si la gloire, la réputation de quelqu'un repose sur quelque chose de vrai. Sinon, c'est fallacieux. C'est de l'ordre du sophisme. C'est de l'ordre des apparences. Ce que Platon pourfendait hein, avec un plaisir non dissimulé. Et de même les stoïciens. Et Cicéron disait ça avec tellement de force. Et donc là, il y a un point extrêmement important. Poser la question de la finalité, ça exige de revenir à la source. Qu'est-ce qui donne vraiment sens à ma vie? Et ce en vue de quoi? Ce pourquoi je suis? Et ça, c'est une question extrêmement concrète, très pratique. Dès que je pose un acte volontaire, si vraiment je pose un acte volontaire, ça exige que je me pose la question du pourquoi je le pose. Sinon, c'est que je vis uniquement au niveau imaginatif, et je vous dis au gré des modes, ou bien par habitude, par passion, par instinct, que sais-je, par fatigue. Il y a des gens qui sont gouvernés par la fatigue. Ils quittent leur lit pour y retourner. Voyez. Ils attendent le moment où ils vont enfin se remettre dans l'état de la potentialité. Quand je dors, au moins, ça fait au moins un certain nombre d'heures dans la journée où personne ne me dérange, et surtout hein, où je suis... Je ne me pose pas de questions, je ne suis pas malheureux, parce qu'au fond, je ne suis pas angoissé, ça va très bien. C'est pour ça que vous voyez, ne plus dormir, c'est une chose catastrophique. C'est pour ça qu'Aristote dit avec beaucoup d'humour qu'il n'y a pas de différence pendant la moitié de leur vie entre les gens de bien et les brigands. Parce qu'il se dit, si ce n'est que peut-être les brigands ont des rêves moins paisibles que les gens de bien. Ils sont un peu troublés dans leur conscience, alors ils font des cauchemars. Donc c'est intéressant. Bon, et c'est à noter. Ah oui, c'est une question importante. Pourquoi je vis? Si je m'éveille, si je suis éveillé et que je ne me contente pas de dormir, je ne peux pas vivre sans poser la question du pourquoi. Parce que je pose des quantités d'actes volontaires dont je suis source. Oui. Je pose des choix. Le choix est un acte volontaire. J'ai choisi de faire ça. Et j'en suis par conséquent responsable. Oui. La responsabilité morale, elle naît à partir d'un choix volontaire. Si c'est vraiment moi qui ai fait cela, si je l'ai choisi de manière volontaire, j'en suis source. Et si je l'ai fait librement, j'ai une responsabilité par rapport à ça. Ah oui, on verra tout ce qui peut diminuer notre responsabilité, etc. Bon, ça, c'est l'étude de l'éthique. Bien, oui, poser la question de la sagesse, je crois que c'est une question très importante, parce que, et de la contemplation, est-ce que ce n'est pas la rencontre la plus profonde entre finalité et vérité? Il n'y a de sagesse que quand j'atteins en vérité, pleinement, ce pourquoi j'existe, ce pourquoi je suis. C'est pourquoi la philosophie est une sagesse qui a une autorité pour critiquer les traditions. C'est pour ça que Socrate n'a pas été apprécié par Athènes. Hein. Pourquoi Socrate a-t-il été condamné? Parce que son interrogation philosophique remettait en cause les traditions. En exigeant de montrer que les dieux politiques de la cité n'étaient pas le véritable dieu, et qu'il fallait trouver le dieu intérieur. Alors on l'a accusé d'impiété. Socrate n'est pas impie, Socrate montre simplement qu'il y a beaucoup de dieux imaginatifs chez les Grecs. Mais c'est important, vous voyez, la philosophie est une chose qui nous met tout de suite devant des questions extrêmement fondamentales et ultimes pour l'homme. Vérité, finalité. Oui, c'est pour ça que j'insiste aussi pour vous rendre attentif à une chose que le père Philippe vous a dite aussi ce matin, qui dans le monde d'aujourd'hui était importante à rappeler, ça tombe sous le sens, mais que la philosophie n'est pas un système. Le philosophe n'est pas un logicien. Le philosophe est philosophe s'il tend à être un sage. Il y a une véritable sagesse philosophique. Parce qu'on cherche la vérité, parce qu'on cherche une finalité qui permette de rappeler à l'homme, et d'abord à soi-même, quelle est la grandeur et la noblesse de notre personne. Vous savez, il y a cette phrase de Socrate hein, que saint Ambroise a repris en la transformant. C'est assez amusant. Un Socrate dit « Connais-toi toi-même hein, et connais quelle est ta dignité. » Et saint Ambroise dit « Ô chrétien, connais quelle est ta dignité hein, de racheté par Dieu. » Il a ici une phrase socratique. « Connais-toi toi-même comme chrétien. » Ça présuppose « Connais-toi toi-même comme homme. » Parce que le chrétien, c'est d'abord un homme. C'est pour ça que vous voyez, la foi chrétienne ne supprime pas la philosophie. Hein. Elle l'exige pour qu'on comprenne vraiment ce que la grâce apporte à l'homme. Alors vous voyez, la sagesse hein, recherche de la finalité, la sagesse recherche de la vérité. Alors je vais ici un tout petit peu anticiper hein, pour vous montrer deux aspects qui me semblent importants et qui trouvent peut-être leur sommet dans la philosophie d'Aristote. La recherche de la vérité, vous voyez, qui va trouver son sommet dans la sagesse quand on va découvrir une personne qui est la vérité. Il y a un seul être qui peut dire qu'il est la vérité, c'est Dieu. Nous cherchons la vérité. La sagesse, ce sera de découvrir un être qui est la vérité, et qui est en même temps, comme finalité, le bien, la bonté souveraine, donc le premier aimable. C'est pour ça que même quelqu'un comme Aristote souligne qu'il y a un amour à l'égard de Dieu. Il dit que Dieu est le premier aimable. Et qu'un païen ait dit ça, c'est très impressionnant. Le bien, la bonté, capable de nous faire de que notre propre finalité. La vérité, une personne qui est donc, dont on pourra dire, si j'emploie un langage plus métaphorique, hein, qui est lumière, et qui achève par là toute la recherche de vérité de l'homme. Je crois que c'est très important, parce que ça nous montre tout de suite, et c'est là que je dis que j'anticipe un petit peu, comment la sagesse philosophique, et donc la contemplation, va donner son sens ultime aux deux grandes recherches de toute la philosophie. Les deux recherches essentielles, celle de ce qu'on appelle la métaphysique, ou la philosophie première, qui cherche qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que c'est que la réalité existante, et puis l'éthique, qui est la recherche du bonheur humain. Et là, c'est ce que le père Philippe a commencé avec vous ce matin, sur lequel il reviendra avec vous à partir de samedi. Quand il vous a montré, hein, c'est très important, que la première finalité qu'on découvre, c'est celle de l'amitié. Et que donc, très concrètement, le rôle premier du philosophe, c'est de faire comprendre à l'homme l'importance d'une véritable amitié dans sa vie. Bon, c'est rien d'autre que poser la question de l'éthique. Hein, quelle est la finalité de l'homme? Ce pourquoi je vis. Et bien, la sagesse philosophique, elle va faire l'unité entre ces deux grandes recherches de la philosophie. La métaphysique d'une part, qui cherche à connaître ce qui est, et qui donc dans cette lumière va dévoiler qu'est-ce que c'est que notre intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Capacité de connaître la vérité, c'est-à-dire capacité de connaître ce qui est. Je suis vrai quand je rejoins ce qui est. J'anticipe un peu, oui, c'est pour ça que j'y reviendrai, vous inquiétez pas, demain là-dessus. Et puis, le rôle de l'éthique, qui commence à se poser la question du « pourquoi je vis ? Quel est le sens de ma vie ?» Mais oui, le sens ultime de ma vie, je le découvrirai dans la rencontre d'un bien premier que j'aime et que je cherche à contempler. La recherche de la vérité, qui est l'exigence la plus profonde de mon intelligence, qui ne peut pas se contenter des opinions, des apparences, elle va trouver son sens ultime dans la sagesse contemplative. Autrement dit, quand on entre dans la contemplation philosophique, on est face à un être, à une personne, à un bien souverain, qui va, de manière très concrète, combler totalement l'appétit de vérité de notre intelligence et la soif d'aimer de notre volonté, qui va donc donner son sens plénier à notre recherche du sens de notre vie, à notre recherche de la vérité, qui sont bien les deux grands absolus de l'homme. L'homme a soif d'aimer, l'homme a soif de connaître la vérité. Et c'est ça l'enjeu. Hein. Et je souligne bien que la philosophie n'a de sens que si elle va jusque-là, sinon elle reste vaine. C'est pour ça, vous voyez, qu'on est dans un monde qui, au fond, parce qu'il n'a plus de sagesse philosophique, ben, se réfugie dans des connaissances qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus développées, beaucoup plus certaines. C'est évident, vous voyez. Si vous maintenez la philosophie uniquement dans des choses descriptives, mais les sciences vont bien plus loin. La philosophie ne garde son rôle, ne garde son autorité, que si on la découvre comme sagesse. Parce que elle seule, quand elle découvre Dieu, peut découvrir la vérité plénière, peut découvrir l'amour dans ce qu'il a de plus profond. Et l'amour à l'égard de Dieu est beaucoup plus radical que l'amour d'amitié. C'est pour ça qu'il n'y a aucune opposition entre l'amour de Dieu et l'amour de l'ami. Mais ça, j'y reviendrai demain, à propos d'Aristote. Parce qu'Aristote est le premier à l'avoir dit. Hein. Alors vous voyez, pour ça, hein, pour nous aider un petit peu, j'aurai avec vous hein, qu'on essaye de regarder deux aspects, quelques aspects du point de vue historique. Alors, je vais d'abord vous montrer quelques grands moments qui me semblent très importants par rapport à cela. Alors, déjà, j'explique un peu l'intention de cela. Je crois que c'est très important de toujours bien voir l'intention qu'on a quand on entre en philosophie. Oui, le philosophe réfléchit à partir de l'expérience humaine, mais il se sert, dans sa recherche, de la coopération de tous les autres philosophes, et surtout pour un sujet comme celui-ci. Et le rôle de ce qu'on appelle, vous voyez, une enquête ou une topique historique, c'est de nous aider à poser quelques grandes questions. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les opinions des philosophes ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des opinions différentes. Platon a dit ça, Aristote a dit ça, Descartes a dit ça, Kierkegaard a dit ça, que sais-je. Pourquoi n'ont-ils pas les mêmes opinions ? Et donc, la confrontation des opinions... Les opinions philosophiques, elles sont faites pour être confrontées. Il y a une confrontation et ce qu'Aristote appelle la dialectique. La dialectique, au sens aristotélicien du terme, c'est dialegestai, hein, le dialogue. La confrontation des opinions. Et s'il y a des opinions différentes, ça me montre bien que la vérité n'est pas si facile à cerner. Si la vérité était évidente, nous serions tous d'accord immédiatement. Vous voyez, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de discussions pour dire que nous sommes tous assis dans cette pièce, sauf moi, ça c'est visible. Et si je m'assieds, mon affirmation sera alors absolue. Oui. Bon, c'est dit, oui, je ne crois pas qu'on va discuter sans s'étendre là-dessus. Par contre, quel est le bonheur de l'homme ? Interrogez les gens dans la rue ? Oui, faites, vous êtes dans une session philosophique, donc vous n'êtes pas astreint au silence. Oui, les frères, oui, mais ça c'est autre chose. Mais vous avez là à discuter philosophiquement. Pour vous, oui, ce serait intéressant de commencer la session, hein, de vous demander de faire passer un papier, ou bien chacun prenne un petit papier, et vous mettriez spontanément, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par contemplation ? Je suis sûr que c'est très intéressant comme enquête. Bien, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Pour vous, quel est le bonheur de l'homme ? Aristote a fait ça, hein, dans l'éthique à Nicomaque, il dit pour les uns c'est la richesse, pour d'autres c'est la santé, pour d'autres c'est le pouvoir politique, pour d'autres c'est l'honneur, pour d'autres c'est l'amitié, pour d'autres c'est la contemplation, pour d'autres c'est dormir. Et dire, ça dépend aussi des circonstances dans lesquelles on se trouve. Au moment où on est malade, le bonheur premier pour nous, c'est de retrouver la santé. Et là, le médecin devient un homme indispensable. Et que si je suis en bonne santé, je vais quand même pas vivre avec mon médecin, aller le voir tous les jours. Pour dire, vous pouvez faire un petit contrôle. Il y a des gens comme ça, mais c'est pas nécessaire normalement. Et l'art médical est pour supprimer un mal. Il n'est pas une fin en soi. Hein. Pour ça, l'homme ne s'identifie pas au médecin. Mais c'est très intéressant à creuser ça. Qu'est-ce que c'est que le bonheur de l'homme ? Il y a des opinions différentes. Donc je dois les confronter pour m'obliger à m'interroger, oui, à avoir une interrogation qui soit plus aiguisée. Et l'interrogation va me faire revenir à l'expérience pour essayer de saisir qu'est-ce qu'il y a de vrai dans chacune de ces opinions. Vous savez bien ce que dit Aristote aussi, cette phrase tellement extraordinaire, quand il dit « La vérité... en un sens, est facile à connaître. En un autre sens, elle est difficile. Elle est facile parce que nul ne la manque tout à fait. Tout homme découvre quelque chose de la vérité. » Et Aristote cite un proverbe, « Qui manquerait une porte ?» Et donc, ça repose sur quoi ? Sur une confiance très fondamentale sur la capacité de l'intelligence. Mais Aristote est tout à fait à l'opposé de cette espèce de soupçon permanent de la philosophie à partir de Kant, qui dit que l'intelligence est incapable de connaître la vérité. Pour Aristote, ça n'a aucun sens. Il y a une confiance fondamentale dans l'intelligence. Oui, je suis capable de commettre des erreurs, mais l'intelligence est faite pour la vérité, et c'est naturel. Je ne mets pas en doute, toutes les 30 secondes, le fait que je peux atteindre une certaine vérité. Si je commence par la critique, c'est-à-dire par dire « je peux connaître aucune vérité », c'est la stérilité absolue garantie, je l'affirme. Le primat de la critique en philosophie supprime toute fécondité intellectuelle. Bien sûr, au début, c'est pas commode et on voit à peu près, mais on progresse tout le temps et on ne peut jamais tout à fait manquer la vérité. Parce qu'il y a un appétit naturel de l'intelligence à ce qui est. Évidemment, si vous dites que l'intelligence se contente des opinions, d'un système, que sais-je, d'une idéologie, évidemment vous allez dire ça. Vous allez dire chacun son système. Mais si vous reconnaissez que l'intelligence est faite pour connaître ce qui est, la réalité existante, telle qu'elle est, il y a un appétit naturel de l'intelligence à connaître la vérité. Donc je confronte les opinions pour revenir à l'expérience, pour essayer de discerner ce que chaque philosophe a saisi de vrai. Et puis ensuite, pour essayer de progresser à mon tour, personne ne peut dire qu'il est à lui seul la philosophie. Il y en a qui ont osé le dire. Ça leur a coûté cher parce qu'il y en a eu d'autres philosophes après eux. Même pas une semaine, dans un haut lieu dit catholique. Il y en a qui disent, mais sans sourire aujourd'hui, qu'on ne peut penser qu'en répétant indéfiniment la phénoménologie de l'esprit de Hegel. On ne peut que la lire, et la relire, et la relire, c'est un cercle permanent. Il y en a qui disent ça. Demande, alors c'est vous faites de l'archéologie. Parce que vous répétez quelque chose qui n'est plus, Hegel est mort. Grâce à Dieu. Il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu. Mais c'est important à saisir, l'expérience, revenir à la vérité. C'est pour ça que je me sers des opinions philosophiques pour aiguiser ma recherche de la vérité. Parce que je ne peux pas dire que je possède la vérité. Donc, tout philosophe, quel qu'il soit, a quelque chose à m'apprendre. S'il cherche vraiment la vérité. Donc vous voyez, le rôle d'une topique historique, c'est de nous aider à nous poser quelques questions. Alors quant à la contemplation, je ne peux pas tout faire, parce que ce serait trop vaste. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est à regarder, qui est absolument capital, c'est d'abord la philosophie grecque. La philosophie grecque, surtout à travers deux philosophes, Platon et Aristote. Ce sont les deux philosophes grecs qui parlent explicitement de la contemplation comme étant le bonheur ultime de l'homme. Ce qu'ils appellent la Théoria, qui a donné en français théorie, mais c'est très mal traduit. Théoria, on va revenir sur le mot dans un instant, quelle est l'origine du mot. Théoria, ça donnait théorie, connaissance théorétique, qui s'oppose à l'aspect pratique. Je vais y revenir. Alors vous voyez, je crois que ce serait très important, parce qu'il me semble que Platon et Aristote, par là, mettent vraiment en lumière le sommet de la philosophie grecque. C'est ce qu'il y a de plus parfait dans la philosophie grecque. Montrer qu'au fond, le bonheur de l'homme, c'est la contemplation. On va le voir, ils le disent l'un et l'autre, mais de deux manières tout à fait différentes. Et on va voir que ça nous pose des quantités de questions qui restent extrêmement actuelles. C'est pour ça que je crois que si on se pose la question de la sagesse philosophique, de la contemplation, on ne peut pas éviter de rencontrer les Grecs. C'est impossible. C'est la source de toute la philosophie occidentale. Si vous voulez entrer un peu en philosophie, il faut lire quand même quelques grands ouvrages de Platon et d'Aristote. C'est essentiel. Il faut avoir lu au moins une fois le Banquet de Platon dans sa vie, c'est absolument important. La République, au moins quelques extraits. Je ne dis pas de lire toute la République parce que ça fait 10 livres, donc c'est un peu long. Mais c'est quand même important, c'est quand même un des grands, c'est le grand système politique, le premier grand système politique. Quoi. Platon parle aussi de la contemplation. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis, Aristote qui va nous montrer que la finalité ultime de l'homme, c'est la contemplation, et que cela ne supprime pas, mais peut-être assume, même si ce n'est pas toujours dans les textes même d'Aristote, hein, ce bonheur premier de l'homme qu'est l'amitié. Pour Platon, il n'y a pas d'amitié. Pour Aristote, l'amitié est le premier bonheur de l'homme, et il y a un dépassement qu'est la contemplation. Alors ce sera notre étude de demain matin, parce qu'Aristote est quelqu'un de très vaste, et sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à lire. Alors je ne vais pas lire vous tous les textes, parce que ce serait peut-être un peu fastidieux pour vous, mais c'est important d'avoir au moins le contact avec quelques grands textes qui sont essentiels. À l'autre bout de l'histoire de la philosophie, je dirais, vous voyez, la philosophie grecque, philosophie qui réfléchit sur la finalité, sur la vérité, qui cherche ce que c'est que le bonheur de l'homme, au-delà des traditions religieuses, à l'autre extrémité de l'histoire de la philosophie, je dirais, la philosophie européenne, dans son sommet, dans ce qu'elle a de plus ultime, j'aurais presque envie de dire, c'est la disparition de la contemplation. Et la philosophie européenne, elle commence, au sens précis, avec Descartes. Bon, elle a ses origines avant, hein, chez les théologiens chrétiens, mais on va essayer de comprendre, parce que ça n'est pas si commode. Hein. Et j'aurais presque envie de dire, oui, de la découverte de la contemplation philosophique à sa disparition en terre philosophique européenne. Je crois que si on entre à fond dans la philosophie européenne, telle qu'elle commence avec Descartes et qu'elle s'achève chez Hegel, et puis après Hegel, c'est une postérité qui sont les idéologies athées, c'est la disparition complète de la contemplation. Oui, chez Hegel, il n'y a plus possibilité d'une contemplation, c'est plus possible. Puisque Dieu est absorbé dans l'immanence de ma vie. C'est pour ça que là, il y a vraiment un enjeu. Hein. Il y a une discussion philosophique d'Aristote à Hegel. Et le point de contact, c'est le rapport entre l'intelligence et le divin, entre l'intelligence et Dieu. Pour Aristote, Dieu, nous pouvons le contempler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein ? On essaiera de comprendre ça. Pour Hegel, Dieu est possédé dans l'immanence de notre vie spirituelle. C'est pour ça que je crois que devenir hegélien philosophiquement, c'est tuer radicalement la vie contemplative dans ce qu'elle a de plus fondamental. C'est pour ça que quand vous voyez dans certains lieux théologiques, dans certains lieux d'enseignement théologique, qu'on dit ouvertement que c'est Hegel qui est le maître à penser de la théologie d'aujourd'hui, c'est très grave. Parce qu'ils vous diront ouvertement, la théologie chrétienne, c'est la foi rationalisée. C'est la foi absorbée par la raison humaine. La théologie n'est plus contemplative, elle n'est plus une sagesse. Mais je vous dis ça, il faut quand même que je raconte cet exemple, parce que ça m'a tellement frappé. Mais je dis ça aussi pour les frères, c'est très important. C'était vendredi dernier à l'Institut catholique de Lyon. J'assistais à une conférence sur l'Esprit-Saint selon Hegel. C'est déjà un sujet, il faut le faire. Donné par un professeur de Sorbonne réputé. Et après la conférence, il y avait un dialogue avec le doyen de la faculté de théologie. Et dans la conférence, le philosophe en question, professeur de philosophie en Sorbonne, a dit ceci. Évidemment, ça ne vous dira peut-être pas à tous grand-chose, mais c'est pour quelqu'un qui est un peu habitué à la théologie, ça me semble capital. Il a dit, entre autres choses, mais notamment cette chose très caractéristique, avec la philosophie hegélienne, disparaît totalement de la théologie le problème de la causalité et le problème de la finalité. Les catégories de cause et de fin n'ont plus lieu d'être pour la connaissance de Dieu. C'est uniquement l'immanence de la vie et le développement de la négation. Alors il disait, hein, à titre d'exemple, oui, la négation sert au point de vue théologique, puisque le Fils, dans la très sainte Trinité, c'est tout ce que n'est pas le Père. C'est effarant. C'est même plus la foi catholique, ça, parce que ça introduit une division en Dieu. Hein. Alors, très bien, bon. Lui, il a cette opinion hegélienne, alors laissons-le faire son discours. Mais après, réflexion du doyen de la faculté de théologie, « Ah, mais c'est... Rassurez-vous, monsieur le professeur, grâce à Dieu, en théologie, nous n'en sommes plus là. » La causalité et la finalité, on les a complètement évacués de la théologie. C'est du Moyen-Âge. C'est plus d'aujourd'hui. Au contraire, on est tout à fait heureux d'essayer d'entrer dans la négativité hegélienne. Et vous avez dit qu'il ne fallait pas qu'on ait de demi-concepts. Nous sommes tout à fait d'accord pour le concept hegélien. Il faut assujettir la foi au concept, textuellement. La théologie, c'est la foi rationalisée. Et c'est très caractéristique. Pour ça, je dis que la philosophie moderne, dans son sommet, c'est la disparition complète de la contemplation, qui, pour rester vraie, exige l'adoration, donc le respect de la transcendance de Dieu. Et pour le comprendre, il faut une métaphysique de l'être. Si je reste dans l'immanence du vécu, et que je prétends absorber la foi chrétienne dans mon intelligence, je prétends que je possède le divin. Ah oui, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que je crois que c'est vraiment, au point de vue théologique, c'est peut-être pas l'erreur philosophique la plus, la plus visible dans les choses humaines. Parce qu'il y a des choses, il y a des erreurs qui touchent la politique, qui touchent la morale, qui sont beaucoup plus visibles. Mais quant à l'aspect profond de la théologie, c'est l'erreur la plus grave. Parce que c'est l'erreur sur l'intelligence humaine dans son rapport avec Dieu. Dire qu'il n'y a plus de contemplation, c'est détruire complètement la philosophie, à terme, et au bout du compte, la théologie chrétienne. S'il n'y a plus de sagesse philosophique qui respecte la distinction entre Dieu et la créature, il ne peut plus y avoir de véritable théologie chrétienne. Or, c'est ce problème-là, oui. La contemplation, ça je vous posais au début tout à l'heure. Que puis-je connaître d'un être dont je n'ai pas immédiatement l'expérience et qui est tout autre, parce qu'il est premier, parce qu'il est le créateur, parce qu'il est la vérité première, parce qu'il est la bonté souveraine, oui. Sans la cause finale, je ne peux rien saisir de lui. Parce qu'il est tout autre, et il faut que je puisse le connaître tout en respectant le fait qu'il est tout autre. Et qu'est-ce que j'ai comme capacité pour ça, au point de vue philosophique? Alors c'est pour ça, vous voyez, je crois, du point de vue historique, si on avait le temps, il faudrait regarder une comparaison entre Aristote et Hegel. Je ne vais pas le faire, parce que si je vous mets dans la philosophie hegélienne, je crains que vous soyez vite découragé, et cette session va se terminer comme un combat de chien, il n'y aura plus personne. Alors, ce n'est pas la peine. Donc, vaut mieux faire des choses plus proches. Et je crois que les Grecs ont vraiment un rôle très salutaire. C'est au fond ce qu'a très bien compris, beaucoup de philosophes actuels, qui disent, mais au fond, pour retrouver un véritable sens de la philosophie, il faut retrouver un contact avec la source de la philosophie. Merleau-Ponty, par exemple, l'a très bien dit. Il parle de la philosophie grecque comme étant la philosophie qui sont les fondateurs. Ceux qui inaugurent la recherche philosophique. Alors, quand il s'agit du problème de la contemplation, il y a le premier grand nom, c'est vraiment Platon. C'est capital de connaître un tout petit peu la position de Platon dans ce domaine, qui est très complexe, qui est très difficile. Là aussi, ce sera forcément quelque chose de très, je ne dis pas schématique, mais en tout cas très allusif, forcément, parce que sinon il faudrait lire tout Platon. Donc ce sera quelques notes, quelques aspects qui me semblent importants, et je le fais dans cette optique, réfléchir, nous interroger sur l'importance de la contemplation pour l'homme. Comment Platon a-t-il découvert ce fait que l'homme pour lui est fait pour la contemplation? Et qu'est-ce que cela lui pose comme question? Quant à la recherche de la vérité, quant au bonheur de l'homme, quant au rapport entre l'homme et la communauté politique. Alors j'essaierai de vous montrer comment, à mon avis, il y a trois grandes voies d'accès pour essayer d'entrer dans cette découverte de Platon sur la contemplation. Enfin, ça ce soir. Et puis, demain matin, je voudrais qu'on aborde un petit peu la philosophie d'Aristote, qui là aussi est très vaste. Et puis, si on a un tout petit peu de temps, j'aimerais bien que... Alors oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, bien sûr, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Donc vous les rédigez par écrit, c'est évident, parce que rédiger, ça peut être que par écrit. Donc vous les rédigez, vous les posez sur le bureau ici. Donc, si c'est des questions qui ne demandent pas trop de temps, j'y réponds rapidement au début du cours. Sinon, demain après-midi à 15h30, je ferai un cours pour répondre uniquement aux questions. Il ne faut pas hésiter de les poser. Si par exemple, il y a des choses sur lesquelles je suis allé trop vite, ou j'ai été trop allusif, et ce n'est pas très clair, vous voyez, il ne faut pas hésiter de demander. Et puis, peut-être, j'aimerais bien qu'on regarde comment est-ce qu'en théologie chrétienne, on s'est servi de cela. Notamment, en regardant un tout petit peu saint Thomas dans son traité de la vision béatifique. Pourquoi parle-t-on de la vision de Dieu? C'est très important. Et puis, voir pourquoi ça s'est dégradé. Comment est-ce qu'on peut aboutir à cette position cartésienne qui, au fond, quand elle se développe jusqu'au bout, donne la vision hegélienne. Et c'est qu'au fond, la corruption de la théologie chrétienne aboutit même à la destruction de la sagesse philosophique. Ça me semble important parce que je crois que c'est vraiment le problème devant lequel on se trouve aujourd'hui. Puis à partir de là, je vous poserai quelques grandes questions pour que vous soyez à pied d'œuvre, hein, pour réfléchir avec le père Philippe dans sa démarche proprement philosophique, d'une manière, dans une philosophie réaliste, telle qu'il souhaite vous l'exposer.